Sexualité et dissidence queer, c'est un livre unique. C'est une sorte de croisement entre un manifeste et un ouvrage scientifique. J'ai la personne qui a dirigé cet ouvrage-là. Il va probablement que je vais me faire corriger, mais en tout cas, je le vois comme ça. 21 experts et expertes remettent en question l'ordre sexuel normatif. Ce livre est une sorte de credo à la libération sexuelle. Chacha Henriquez enseigne la sociologie queer à l'Université du Québec à Montréal. Et elle a coordonné le livre « Sexualité et dissidence queer » qui est publié chez Remue-Ménage. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Chacha, ça va bien?
Salut Denis Martin. Oui, ça va très bien et toi?
Oui, j'ai utilisé « IEL » parce que je crois que c'est ce que tu utilises.
À l'écrit, c'est ce que j'utilise. J'essaie d'utiliser un langage inclusif à l'écrit parce que je l'ai écrit en langage inclusif, ce livre. Donc, j'ai pris cette habitude, mais j'utilise tous les pronoms.
Ouais. D'accord. Commençons par le début, sociologie queer. C'est bien la première fois de ma vie que je voyais le mot queer ajouté à un domaine de recherche. C'est nouveau?
C'est pas nouveau dans le monde anglophone. Hein. Ça fait vraiment longtemps que ça existe. C'est sûr que chez nous, c'est un peu plus récent. En fait, déjà, il faudrait se demander c'est quoi le queer. Oui. Et nous, le queer, on le travaille comme... moi, je le travaille comme un projet politique d'analyse des rapports de pouvoir qui régulent les sexualités, les genres et les corps sexués dans une perspective intersectionnelle pour pouvoir résister à ces rapports de pouvoir.
D'accord.
OK?
Alors, comment t'es venue l'idée de ce livre, finalement, dans cette optique-là?
L'idée du livre est venue du fait que j'enseigne à la fois à l'UQAM, je suis une des personnes qui enseigne donc le cours de sociologie queer, j'enseigne aussi au collégial la sociologie et je voulais travailler sur du matériel pédagogique très accessible pour pouvoir enseigner les questions de sexualité. Et le point de départ, je dirais, c'est le texte de Gayle Rubin, « Penser le sexe ». Donc, c'est un peu c'est une anthropologue et militante lesbienne, BDSM des années 80, qui a sorti ce texte majeur et qui met des mots, hein, qui essaye de penser l'oppression sexuelle. Donc, la sexualité, la régulation des sexualités comme un axe d'oppression. Et donc, on s'est dit, on va reprendre ce principe-là, travailler à la jonction entre l'activisme et l'académie, mais aussi se dérouler les différentes formes de régulation des sexualités.
Et donc, ce livre-là est venu au monde avec ça. Et là, tu as réuni 21 experts, c'est ça?
On est 21 m'incluant.
Oui.
Mais oui, je suis allé chercher donc des personnes qui travaillaient sur différents sujets. Donc, on a une quinzaine de chapitres dans le livre. C'est ça, c'est une petite brique, mais très accessible et très facile à lire.
Alors, on a parlé en introduction. Alors, on a essayé d'expliquer un peu la sociologie queer. Puis, je ne voudrais pas prendre 10 minutes là-dessus, mais on a aussi un terme très important qui s'associe à ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre sexuel normatif. Qu'est-ce que c'est?
Donc, c'est cette idée de se dire que nos sexualités sont régulées par un ensemble de normes qui va réguler donc notamment avec quel partenaire est-ce qu'on est censé avoir des relations sexuelles. Hein, donc, c'est là où l'homophobie agit, par exemple. On va nous pousser vers l'hétérosexualité. On parle aussi de la monosexualité, être attiré par un seul genre contre les bisexualités.
Oui.
Il y a aussi la régulation de la quantité de partenaires et de pratiques. Donc là aussi qu'on voit qu'il y a des formes de régulation, par exemple. Donc,
et comment on a des relations sexuelles?
Le type de pratique aussi et le lieu, hein, le lieu des pratiques. Et donc on voit qu'il y a tout un ensemble de normes qui agissent sur nos sexualités.
Alors, ce livre déconstruit beaucoup de tabous. Moi, j'avoue que j'ai eu un plaisir fou à lire ce livre. Je l'ai dit quand on a préparé l'entrevue. Ce livre déconstruit des tabous et des idées préconçues et pas n'importe lesquelles. Il y a un chapitre qui discute du BDSM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bondage, domination, sadomasochisme. Alors, pourquoi c'est important de parler de ça? Parce qu'on sait que c'est un tabou, là.
Oui, c'est ça. C'est que le BDSM, on le voit toujours comme une activité violente. Donc, quand on en parle, soit on l'associe à la violence, soit on va l'associer à la perversion. Ça va être un sujet d'humour. On va parler de BDSM pour faire une blague.
Ouais.
Donc, on le voit de manière négative. Et donc là, l'idée, ce qu'a travaillé Sabrina qui a rédigé le chapitre, était de partir du point de départ de BDSM comme culture du plaisir. Donc, un plaisir qui est dégénitalisé. On sort des organes génitaux, on voit tout le corps et surtout le cerveau comme servant au plaisir et aussi comme une culture du consentement qui est extrêmement développée dans les communautés BDSM. Donc, on a voulu mettre de l'avant qu'est-ce qui se passe réellement dans ces communautés versus c'est quoi les discours qu'on entend sur le BDSM.
Le consentement, ça, c'est un mot que je retiens parce que c'est un mot qui est très important dans notre monde présentement que les gens ne semblent pas comprendre, mais les personnes qui pratiquent le BDSM, habituellement, le comprennent, eux autres.
Oui, bah c'est l'idée, c'est que dans le livre, je pense qu'on essaye de complexifier au fur et à mesure du temps cette notion de consentement comme un espèce de processus continu qui a lieu avant, pendant et après. Hein, ça, c'est quelque chose qui est plus justement qui est très travaillé dans les communautés BDSM et qui doit nous permettre, et ça, d'avancer vers une société bah, où il y a de plus en plus de consentement et où on combat la culture du viol en mettant en place une culture du consentement. Donc il y a un peu cette idée, mais il y a aussi des débats, des discussions. Qu'est-ce qu'on veut dire par consentement? Comment on le travaille? Comment on transforme la société quand on grandit dans une société violente, hein, il faut se le dire. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer la transformation?
Vous dénoncez la culture du viol. Je sais que c'est un sujet aussi qui est très important de nos jours dans la communauté en général, dans les communautés en général, mais dans nos communautés aussi, hein. La culture du viol, on veut combattre ça.
Oui, ben après on a des cultures du consentement qui sont différentes d'une communauté à une autre, hein, et c'est vrai que ben, je sais pas si dans nos communautés, ben, on peut parler de la communauté des hommes gays par exemple, hein, où on a une culture qui est assez différente, où on a, tu sais, on a une
Bon,
sexualité.
je t'interromps, mais on a même un politicien ouvertement gay qui, pour lui, disait qu'entre hommes, la question du consentement, ça se pose pas. Je cite le très cher Éric Duhaime.
Oui, donc c'est sûr que on vient aussi d'un passé où on a, ben, on a passé des pratiques qui se passent notamment dans le silence et où donc il faut qu'on arrive à travailler et à transformer nos communautés en fait et à faire un travail à la fois individuel et collectif sur ces enjeux-là.
Je vais t'amener parce qu'il y a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais il y a un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le travail du sexe. On sait qu'il y a eu des manifestations récemment, à la suite d'une rencontre où on remettait, en fait, où on voulait contrôler le travail du sexe. Et le travail du sexe, c'est quand même un autre tabou que vous démontez dans ce livre.
Oui, c'est-à-dire que la sexualité, on l'oriente vers quelque chose qui est censé être tout le temps gratuit, en fait, hein, qui doit être de l'ordre de la gratuité. Et l'idée, c'est de se dire, ben, que la sexualité, c'est une énergie, donc comme faire à manger. C'est faire à manger, c'est une énergie. On peut faire à manger gratuitement si ça nous fait plaisir, mais on peut aussi ben, travailler dans un restaurant, par exemple. Donc là, il y a une industrie du sexe qui existe, qui est très répandue, hein. La pornographie, ça fait parmi des... par
Je pense que c'est le sujet numéro un qu'on trouve sur l'Internet.
Sur Internet, c'est
Oui.
ça. Donc, l'industrie du sexe est énorme. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans cette industrie. Et donc là, toute l'idée, c'est de se dire, il faut considérer qu'il s'agit d'un travail comme moyen de combattre l'exploitation qui peut être vécue à l'intérieur de l'industrie du sexe. Donc, c'est ce levier-là, en fait, sur lequel on a voulu travailler.
Je sens une telle passion dans ce que tu nous dis, Chacha. Pourquoi ce livre-là s'adresse à qui finalement? Qu'est-ce que tu vas accomplir avec ça?
Ben, l'idée, c'était d'ouvrir des discussions sur les questions de sexualité au Québec en français,
Oui,
hein, parce
oui.
qu'on en manque en fait, des essais queer, on en manque, des discussions qui nous amènent un peu plus loin. Donc de créer un dialogue, hein, au fur et à mesure, mais aussi d'être extrêmement accessible. Donc des jeunes de 17 ans peuvent le lire et comprendre et apprendre. Des personnes qui n'ont pas de bagage en sciences sociales peuvent le lire et apprendre des choses. Donc l'idée, c'était de s'adresser à quand même à la fois nos communautés, mais aussi d'en faire un outil pédagogique, un outil pour les salles de cours aussi.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, qui n'ai aucun bagage sociologique, là, je n'ai pas étudié là-dedans, je lisais le livre et je me sentais intelligent en le lisant. Mon Dieu, je comprends tout ce qu'on me dit.
Parfait. Bon, ben, c'est bon signe,
C'est
ça.
important, ça, de vraiment de vulgariser, excuse-moi l'expression, c'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas de
Ouais.
vulgariser le langage scientifique et s'assurer que tout le monde comprenne.
Ouais, c'est oui, de travailler à rendre accessible. C'est sûr que le terme vulgarisé, il a des limites parce que c'est comme si, tu sais, il y avait les savoirs
Oui.
très complexes, puis on, tu sais, on rend, c'était moins, ça avait moins de valeur, alors que ça a tout autant de valeur, si ce n'est plus, hein, d'avoir un langage accessible. C'est politique d'être accessible aussi, hein.
Oui.
Ça veut dire que tout le monde peut nous lire. Et l'idée, c'est aussi que de travailler sur des outils qui donnent du pouvoir, qui renforcent collectivement, qui renforcent notre agentivité sexuelle, donc notre capacité d'agir sexuelle, qui renforcent nos réflexions. Donc, c'est sûr que si on lit un texte et qu'on se sent stupide quand on le lit, bah, ça n'a pas l'effet escompté. Alors que quand ça nous donne, comme tu le dis, hein, de la puissance d'agir, ça, on a l'impression de bien comprendre, bah, ça nous donne plus d'outils.
Et ce livre-là, donc, c'est le premier. Je pense que tu as d'autres projets.
Oui, on
Oui.
travaille déjà sur la suite, donc on va avoir un tome queer intersectionnel. Il a fallu qu'on opère des divisions parce que ben, il y a trop de sujets. Mais le tome 2 va être un tome intersectionnel, antiraciste et décolonial qu'on travaille avec la Clinique Mauve, qui est donc une clinique pour les personnes queer racisées et immigrantes qui est à l'Université de Montréal, et avec aussi le cercle Indigiqueer Donc, c'est travailler à faire émerger ces savoirs-là et ces connaissances-là et à produire ces textes-là qui, pour beaucoup, n'existent pas forcément déjà.
Et dans le contexte dans lequel on vit, parce que je le nomme depuis le début de l'émission, on est dans un contexte assez difficile pour nos communautés. Est-ce que ce livre-là peut contribuer à aider, à améliorer les choses?
Oui, donc déjà, nous, dans le premier tome, on a travaillé sur un chapitre sur le backlash avec Gabriel Richard, hein, qui a travaillé sur notamment hétéro-l'école, faire famille autrement. On s'est dit, il faut essayer de comprendre comment ce backlash fonctionne pour pouvoir y répondre. On travaille, je pense que c'est important. Il faut, nous tous et toutes dans nos communautés, qu'on réorganise notre travail pour lutter collectivement contre le backlash. Donc, il faut qu'on continue de faire ce qu'on fait, mais on ne peut pas travailler business as usual. Il faut quand même qu'on réorganise un peu nos actions par rapport à ça. Mais je pense que des choses qui nous font du bien, c'est important dans un contexte dans lequel on reçoit de plus en plus de violence.
Alors, Sacha Henriquez qui a dirigé ou coordonné la publication qui s'appelle « Sexualité et dissidence queer », c'est disponible aux éditions du Remis-Ménage. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission.
Merci.